RCF.
Monseigneur Doré, on ne peut pas s'empêcher de lire le titre de votre livre « Le salut de l'Église est dans sa propre conversion » en pensant à la situation de l'Église aujourd'hui, celle qui s'interroge sur ce qu'elle doit changer, ce qu'elle doit faire évoluer. C'est pour partie d'ailleurs pour ne plus se retrouver dans une situation où des abus ont lieu. Et vous vous y arrêtez longuement. Ce n'est pas évidemment le seul sujet du livre, mais vous y consacrez une partie importante. Alors vous-même, vous n'avez plus de responsabilité pastorale directe depuis 13 ans, mais trois cas d'abus sexuels ont éclaté après votre épiscopat. Et vous dites que malgré tout, l'Église doit se laisser interpeller. Et surtout, vous posez la question, quels moyens l'Église a mis en place pour répondre à cette interpellation? Et puis, qu'est-ce qui fait que ça vous a aussi échappé, que malgré certaines alertes, vous n'avez pas, vous, eu à saisir le sujet?
Oui, nous étions dans un système de société où nous n'avions pas, et à très loin près, je pense que je peux dire ça de tout citoyen français normalement constitué, l'idée de la quantité de cas d'abus, même si on discute les chiffres, c'est énorme, c'est accablant tellement c'est énorme. Donc, premier point. Deuxième point, on n'avait pas idée, au point où on l'a maintenant, de la gravité de la chose, pour chacune des victimes. Moi, j'ai encore l'oreille, les propos d'une maman qui était venue me trouver quand j'étais évêque et qui m'avait expliqué qu'elle avait interdit à sa fille de 12 ans de faire état du fait qu'elle avait été victime de son père. Je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible. Elle me dit, mais toute la réputation de notre famille est en jeu. Elle a estimé. Ben, si cette maman avait eu conscience de la gravité de ce qui était arrivé à sa fille, elle aurait évidemment tenu un autre discours. Elle aurait pas défendu, entre guillemets, son mari et leur honneur. Elle aurait défendu sa fille. Et donc, si une maman n'avait pas la conscience de la gravité, nous n'avions pas conscience de la gravité des choses.
Mais vous aviez quand même conscience que ça ne se fait pas.
Ah, bien sûr.
Qu'un prêtre bien toucher
entendu,
un enfant.
Bien entendu, un prêtre ni un père, à plus forte raison, d'une certaine manière. Enfin, je n'ai pas de raison de dire à plus forte raison, puisque c'est aussi sous la raison de paternité qu'il est arrivé que des prêtres ou des religieux se comportent comme ça. Donc, nous n'avions pas conscience de l'ampleur numérique. Nous n'avions pas conscience de la gravité chez les victimes. Et nous n'avions pas la conscience véritable non plus de la gravité chez le prédateur. À quel point il pouvait s'agir, dans des comportements pareils, de déviances fondamentales qui relevaient d'un traitement psychologique et pas simplement d'une interpellation ou d'une vérification. Véritablement, le pédophile confirmé est quelqu'un qui ne peut s'arracher à sa situation et à ses comportements que s'il est l'objet d'un traitement, que s'il accepte un traitement.
Mais le bon sens perçoit la déviance, malgré tout.
Oui. Et puis, il y a quand même eu des choses qui se sont révélées, ont été découvertes, mais ça s'est fait quand même un peu tardivement. Et dès le moment où des choses ont été connues, pour ce qui est par exemple de l'Église de France, il y a eu quand même une volonté de faire des choses dans les différents diocèses. Il a fallu pour ça que des chrétiens, et pas seulement des chrétiens, se mobilisent. On ne peut que leur être reconnaissant parce que c'était une bonne cause. Les évêques, dans les décisions qu'ils ont prises à Lourdes à la fin, reconnaissent que c'est aussi grâce à la mise en demeure dont ils ont été l'objet, quelquefois de manière rude, qu'ils ont bien été obligés de regarder ce phénomène. Et quand ils se sont déclenchés, c'est pour décider de constituer une commission indépendante. Alors, on les en a critiqués après et on les critique, mais ils avaient raison de faire cela. Une commission indépendante avec pour mission d'abord de repérer des faits, d'en informer, et avec la décision fondamentale de faire ça en se mettant à l'écoute des victimes. C'est ça qui a déclenché le processus. C'est l'idée de se mettre à l'écoute des victimes. Justement parce qu'on ignorait, plus ou moins, mais on ignorait largement un certain nombre de choses, il fallait se mettre en disposition d'en prendre connaissance.
Alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est quoi la
suite ? Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ben, il faut recevoir les résultats de la mission confiée à la commission Sauvé. Ça a été fait à Lourdes, ils l'ont reçu, ça a été remis officiellement, bon. Et à partir de là, ils ont ensemble, un évêque, en assemblée, entre évêques, en assemblée à Lourdes, pris un certain nombre de décisions. Premièrement, maintenant, il faut qu'on poursuive, sur la base de ce qui nous a été communiqué comme résultat, en constituant une nouvelle commission qui va être cette fois de recherche systématique, parce que là, il y a eu un certain nombre de recherches qui ont été faites, mais il y a eu aussi des extrapolations. Et tous les victimes n'ont pas été nécessairement en situation d'être écoutées, d'être reconnues, d'être entendues. Et ça, il y a donc une commission.
Il faut aller jusqu'au bout.
Il faut aller jusqu'au bout. Il faut maintenant chercher à reconnaître et chercher à réparer. Deuxièmement, pour avoir les moyens de réparer, il faudra probablement être en capacité de contribuer par une certaine aspect financier ce qui a été nécessaire pour que les victimes puissent se reconstruire. Et donc pour ça, il faudra que, à grands frais, parce que l'Église de France n'est pas riche, nous constituions un fonds. Troisièmement, on va constituer 9 ateliers dans lesquels des gens, des experts vont réfléchir sur les différentes questions regroupées en 9 qui ont été posées par la Commission et qui nous feront rapport. Et quatrièmement, on va demander au pape de nous envoyer des enquêteurs pour évaluer ce que nous avons fait collectivement et personnellement comme évêque.
Alors, où est-ce que vous voyez la conversion dans ce qui se passe en ce moment, puisque c'est l'objet de votre ouvrage ?
Oui, dans le fait que la tentation a été de ne pas croire ce qui a pu quelquefois être quand même déclaré et porté à la connaissance, parce qu'on était dans une mentalité où il ne fallait pas porter atteinte à l'honneur de l'Église. Parce que c'était compromettre justement sa mission. Mais sa mission, c'est elle qui la compromettait en ayant des ministres qui l'accomplissaient ainsi. Et donc, la nécessité d'aujourd'hui, c'est vraiment de revenir sur les mentalités, les fonctionnements qui ont permis qu'on soit si aveugle et si sourd.
Mais vous comprenez aussi qu'aujourd'hui...
Et ça, c'est le fameux cléricalisme. Cette espèce d'idée que on a un certain pouvoir dès lors qu'on est dans une certaine situation. Et le pire, c'est qu'il est arrivé qu'on motive ça théologiquement. Alors, vous savez l'importance que j'accorde à la théologie.
Oui, vous citez les frères Thomas.
Bon, invraisemblable.
Frères de Saint-Jean.
Les frères de Saint-Jean, bon. Enfin, du moins, le fondateur. Mais l'idée que le prêtre était un autre Christ, et donc... Il était exemplaire, oui, et doté de particularités, de privilèges, de je ne sais pas quoi. Alors que si le prêtre peut être dit autre Christ, ce n'est pas du tout dans la perspective d'un Christ puissant, seigneurial, qui impose sa loi, à glorifier, à reconnaître à deux genoux par tout le monde. C'est celui qui s'est mis au service, qui a pris les moyens de mettre en valeur les petits, les pauvres, les oubliés, les lépreux, les pécheurs. C'est en ça qu'il s'agit d'être un autre Christ. On a complètement dévié la signification de cet axiome « sacerdoce alter Christus ». Il ne s'agit pas d'une formule qui dirait « quand tu deviens prêtre, tu entres dans un statut d'humanité qui est égal à nul autre, tu es auréolé de tout un tas de privilèges et de caractéristiques que n'ont pas les autres. » C'est « tu es appelé à suivre le chemin qu'a suivi Jésus ».
Monseigneur Doré, on parlait de théologie. Dans le contexte des abus, aujourd'hui, pour des chrétiens, il est très difficile de dire qu'ils croient en la Sainte Église catholique. Est-ce que justement, vous pourriez réexpliquer ?
Alors, attendez, il y a de la sainteté dans l'Église. Il y a des gens qui ont vécu ce que je viens de dire. Être un autre Christ, c'est suivre le chemin qu'il a fait. Et ceux qui ont fait ça peuvent être reconnus comme saints, comme exemples. Ça existe. On pourrait en nommer à travers les siècles et encore aujourd'hui. Bon, mais ce n'est pas le fait de tout le monde.
Alors, est-ce peut parler de la Sainte Église dans ces cas-là ?
Au titre d'une foi, je dis qu'il y a parmi nous des saints. Et pas toujours là où on les reconnaît, d'ailleurs, seulement. Mais un jour, l'Église sera pardonnée, car elle aura à l'être aussi des péchés qu'elle a commis dans tous les ordres. Et à ce moment-là, mais ce sera par la grâce de Dieu, par le pardon de Dieu, parce qu'elle aura compris que tout ce qu'elle a fait dans l'ordre du péché lui est pardonné, débordé par la miséricorde, la bonté et aussi la sagesse de Dieu. Alors, on peut, comme le dit, mais c'est l'Apocalypse qui le dit, elle descendra du ciel parée de la sainteté que son époux lui aura donnée. Mais s'il faut dire ça, dans le contexte de l'espérance sur laquelle se termine le credo, à partir des trop peu nombreux, trop peu reconnus, que sont les saints et saintes, qu'on reconnaît d'ailleurs peut-être en nombre excessif aujourd'hui.
Merci, Monseigneur Doré. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre paru chez Salvatore intitulé « Le salut de l'Église et dans sa propre conversion ». Merci à vous et merci à Pierre Samanos pour la technique.